voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Éduquer, c'est transmettre à la génération future un ensemble de connaissances, de valeurs et de compétences faisant partie d'une culture commune. Les méthodes d'enseignement et d'éducation sont aujourd'hui largement remises en question. Avec moi, Jean-Guillaume Bellier, ancien professeur d'histoire agrégé, qui a fait le choix de quitter l'éducation nationale après une observation du système, une remise en question de pas mal de valeurs. Jean-Guillaume est là avec nous pour nous parler de son histoire, de son parcours et de sa vision du système éducatif actuel.
D'abord, on a gardé l'idée qu'apprendre et travailler, c'est corrélé. C'est une erreur, c'est-à-dire qu'apprendre, c'est pas forcément une souffrance. Dans le mot travail, il y a une réelle idée de souffrance. Apprendre, c'est tous les jours, tout le temps, et on le fait en jouant. C'est le fonctionnement naturel du cerveau humain. Donc il y a vraiment des paradigmes de fond dans l'éducation nationale qui sont à revoir et qui ne sont pas prêts de tomber. Toute la société repose sur l'idée qu'il faut travailler et souffrir. Moi, je pense qu'on est là pour faire des activités qui nous plaisent, qui nous passionnent. Et celles qui sont les moins passionnantes, ben, peut-être qu'on pourrait imaginer un système où on se les partage, où certains vont les faire de temps en temps. Pour l'instant, on a un peu tout envoyé chez les Chinois ou en Asie pour leur laisser les trucs a priori pas très intéressants. Il y a une corrélation très nette, en tout cas, entre notre système, notre système scolaire et la société qui crée. L'éducation nationale est républicaine, donc elle a une vision assez dogmatique de l'approche sensible de l'être. Les questions de transcendance, par exemple, ou les questions dites de paranormal, j'aborde des sujets hyper tabous, tu vois, n'ont pas leur place dans l'éducation nationale. Or, si on lit par exemple le dernier bouquin de Daniel Favre, il dit mais cette question là elle est essentielle, on peut pas la laisser de côté, on doit pouvoir l'aborder sans forcément donner de réponse, mais pour pouvoir l'aborder de manière rigoureuse, objective et sans tabou. Sinon, on ne répond pas à cette question fondamentale du sens de l'existence, où on laisse des religions y répondre. J'ai essayé de te résumer sa pensée parce que c'est une pensée assez complexe, mais partant de l'idée qu'on dresse des humains, si tu veux, à fonctionner avec leur cerveau de manière incomplète, c'est-à-dire en étant toujours obligé de chercher une autorité pour avoir une récompense, finalement les humains ne sont pas capables de penser par eux-mêmes et de sentir quelles sont leurs aspirations profondes. Et puis étant extrêmement maltraité, si tu veux, au niveau émotionnel par cette névrose collective de la notation, de l'évaluation, c'est une sorte de névrose collective qu'on a du mal à voir, et que je dénonce un peu là, tu vois, de manière, enfin, que je critique en tout cas, eh bien les individus, il explique ça par rapport à la violence aussi, hein. C'est-à-dire qu'il a fait tout un travail par rapport à la violence, la violence étant une réponse à un mal-être, à une grande peur, et les enfants deviennent violents, tu vois, en réponse, ils deviennent addicts à leur propre violence, et on devient dans ces cas-là, quand on n'a pas été capable, ou on n'a pas pu apprendre par soi-même, parce qu'on aurait développé ses capacités de d'auto-alimentation, tu vois, dans son système cérébral. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, l'idée, c'est que les enfants qui ne développent pas leur envie d'apprendre par eux-mêmes ont des facilités, vont tomber dans des pièges, c'est-à-dire de pensées dogmatiques. N'étant pas à même de sentir leurs propres émotions, tout ce qui est refoulé, toutes leurs souffrances refoulées, la pensée n'est pas complète et on va se tourner vers une pensée qui est complètement sclérosée, donc des pensées religieuses mais simplistes. Il explique ça avec clarté et il propose que l'éducation nationale intègre cette notion de sensible, de transcendance. Parce que c'est une question fondamentale de l'être humain. Et on ne peut pas attendre l'année de terminale en philo pour une partie des élèves pour l'aborder. Donc elle doit être, on doit laisser la place, si tu veux. Et il part de l'exemple de sa fille qui pose la question de Dieu, puis la maîtresse lui demande d'arrêter de parler de ça. C'est à l'image aussi de notre société qui se coupe de toute une partie sensible de l'être. Je pense à une amie qui était stagiaire et puis qui fait son mémoire sur la question émotionnelle. Et la question émotionnelle, pour moi, elle est centrale dans l'être humain. C'est un peu l'essentiel de mon travail actuel, de mon activité actuelle. Et la question du refoulement émotionnel est fondamentale. Or, beaucoup d'enseignants, on leur dit, quand vous allez avoir des classes, jusqu'à Noël, vous devez être le plus dur possible. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas empathique. En gros, il faut contrôler, dresser les élèves, les dominer. Voilà, c'est tous ces rapports-là qui sont en place. Et pour beaucoup d'enseignants, l'apprentissage n'est pas corrélé à l'émotion. Alors c'est complètement lié. La question émotionnelle, elle est fondamentale. Là, pareil, il y a un réel souci, mais qui est un souci. L'école n'est que le reflet de notre société qui a tendance à refouler ses émotions et croire qu'il faut toujours être performant ou parfait, tu vois, de ne pas avoir d'émotions, on s'en méfie, on en a peur, on n'en veut pas. Effectivement, quand on s'adonne à ses émotions, on a peur d'être envahi par sa colère ou par sa tristesse. Il y a un réel manque de connaissances émotionnelles, enfin des mécanismes émotionnels, mais qui est collectif. L'école n'est que le reflet d'une société qui nie ses émotions et qui les refoule et qui tombe dans du coup plein d'addictions, qu'elles soient alimentaires, dans des drogues ou télévisuelles, et qui empêchent d'aller vers justement naturellement vers une diminution de nos besoins, parce que en fait si on est rempli par ce qu'on est, on n'a pas besoin de courir après des produits frivoles et sans intérêt.
Entendre ton discours, c'est alarmiste et ça peut effrayer les parents qui ont des enfants, qui se rendent compte ou qui peuvent comprendre que le système n'est pas du tout adapté. Donc quelles doivent être les bonnes questions que peuvent se poser les parents quant à l'éducation de leurs enfants?
Je suis désolé de dresser un tableau de la réalité assez sombre, mais c'est un peu comme, je me retrouve un peu dans la peau d'un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que j'assume ce que je pense. Le côté toxique de l'école, même si je le reconnais, la vertu d'exister, mais n'empêche, ça reste pour moi assez mortifère pour plein d'enfants. C'est une réalité. On n'utilise pas le plein potentiel de notre intelligence pour inventer autre chose, c'est ce que je dis. Donc le tableau est sombre, mais c'est la réalité de plein de parents qui vivent, à cause de cette notation, la crainte pour leurs enfants de ne pas réussir. Et dès la maternelle, on est en train de les préparer à réussir le bac et voir des études de maths sup ou je sais pas dans quelle classe prépa. Donc tout est corrélé, tout est conditionné par cette peur. Et la réalité, c'est qu'il y a plein de parents qui souffrent énormément, qui se retrouvent à devoir faire les instits de leurs enfants le soir pour les devoirs. Je crois qu'il y a 1 milliard d'euros qui est dépensé par les parents en cours particulier, donc c'est super inégalitaire parce que seuls les riches peuvent le faire. Donc on dit oui, il faudrait remettre des cours particuliers, enfin on fait un truc qui tourne rond. Donc la réalité du système, elle est à voir telle qu'elle est. Enfin, moi, si je suis sorti, c'est parce que j'avais envie de faire d'autres choses et parce que c'est comme si on me demandait de travailler dans une usine qui fabrique n'importe quoi. Ma conscience m'a dit d'arrêter. Elle m'a dit, fais autre chose. Quitte à avoir moins d'argent, et c'est pas grave. Justement, c'est l'application directe d'une sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être heureux et gagner un peu moins d'argent et faire ce qu'on aime réellement que de se contraindre à être dans un système qui, au fond, n'a pas envie réellement de changer. Alors, il y a deux possibilités pour répondre à ta question. Soit on accompagne ses enfants au mieux en n'étant pas dupes, en leur disant, en étant critique aussi sur le système, éventuellement même sur les personnes. Si les instituts sont défaillants, on peut aller leur discuter avec eux, leur dire, écoutez, là, vous avez un comportement pas correct. On peut aller les confronter, c'est pas facile. Certains font extrêmement bien leur travail avec la meilleure bonne volonté du monde et ils font un job dans le système qui est génial, donc dans ce cas-là, autant les soutenir, les inviter à innover, les encourager. Et puis, donc ça, c'est une possibilité. On peut, en tant que parent, c'est ta question, essayer de soutenir un changement à l'intérieur, proposer d'innover, de changer. Soit on peut expliquer aux enfants, dire, écoutez, là, moi, je sais pas quoi faire de plus, j'ai pas d'école alternative, je peux pas faire l'école à la maison, et on va faire avec. Je vais vous aider à faire au mieux, puis on va peut-être donner le plus de distance possible par rapport aux notes à ses propres enfants. Et puis après, il y a tout plein de bouquins qui existent, qui sont des palliatifs, si tu veux, qui expliquent comment être meilleur dans le système. Mais c'est absurde, parce qu'ils proposent tous d'être meilleur dans le système. Mais si tout le monde les applique, au final, où se passera la sélection, puisque ça a pour but de sélectionner. Donc c'est toujours très... Ça n'a pas pour but que les gens trouvent une place et soient épanouis dans la société, ça a pour but de sélectionner en permanence. Donc tant qu'on n'arrêtera pas le truc, on aura beau lire des tas de bouquins et appliquer des tas de méthodes, il y aura toujours un autre qui aura une méthode d'avance qui lui permettra de mieux réussir les examens que les autres. Donc là, c'est surtout, on peut soutenir ses enfants. L'autre solution, c'est ce que dit Bernard Collot, c'est y aller carrément, sortir du système, créer des écoles alternatives, puisque de l'intérieur ça veut pas. Donc il dit, militons ou agissons pour que on ait le droit de créer des écoles libertaires financées par l'État. Éventuellement, on pourrait même imaginer des systèmes mixtes dans des écoles, mais accepter que ça soit différent que l'école classique, avec des parents volontaires, donc des systèmes à l'intérieur du système, peut-être. En tout cas, lui, il en est arrivé là. Alors Bernard Collot, il a été instite dans une classe unique de petit village pendant presque 40 ans, où il n'y avait pas de, il n'appliquait pas les programmes, il ne faisait pas de cours d'orthographe ni de grammaire, et les enfants savaient lire, apprendre, écrire, compter. Il leur apprenait en fin de cycle ce que c'était qu'un COD ou un verbe, mais ils savaient déjà écrire et lire, les enfants. Et il intégrait les parents, parce que ça, c'est aussi une notion très importante, c'est que l'école exclut les parents. C'est comme si dans le triptyque parents-enfants, prof, il y avait l'exclusion systématique. Si l'élève est en difficulté, c'est la faute des parents. Les parents reportent la faute sur le prof. Et au final, si les parents et les profs disent que c'est pas leur problème, c'est l'enfant qui a le problème. Il est inadapté, il a un pet au casque, quoi, tu vois. Alors que c'est pas vrai. Il est simplement pas heureux de ce qu'il vit et que mis dans un autre contexte, il serait très heureux. Donc c'est vraiment, du coup, c'est très pervers pour les enfants parce qu'ils vont croire toute leur vie qu'ils sont responsables de leur échec, alors que mis dans un autre endroit, dans un contexte où ils auraient pu s'épanouir, ils auraient été très heureux et tout à fait aptes à apprendre. Donc c'est grave ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que c'est un côté tragique et mortifère dans l'éducation nationale qui va avec le mur écologique dans lequel on enfonce tête baissée. Ça va avec ça. Ça fait 150 ans qu'on a un système absurde au niveau scolaire. Il avait son sens il y a fort longtemps. Mais il ne l'a plus aujourd'hui.
Tu es venu avec tes papiers, tes notes. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Donc, tu es en train d'écrire un bouquin, c'est ça ?
J'ai décidé de mettre... Il y a plein de livres sur l'éducation. Simplement, je pense que j'ai une vision de l'intérieur parce que j'y étais pendant 20 ans un acteur, que j'ai aimé ce que je faisais. Et j'ai plus envie de témoigner à la fois de ses limites pour dénoncer un système, pour le transformer. C'est un peu pour dire, ben, cessons de fonctionner de manière illogique et passons à quelque chose de plus intéressant. Et j'aimerais, il y a des bouquins passionnants qui existent. Moi, ce que je propose, c'est peut-être une synthèse avec un partage de l'intérieur de ce que c'est que de ce qui s'y passe, pour aller plus loin, justement, avoir une vue globale, comme j'essaie de te la proposer là, une vue complète, et puis des pistes concrètes et une vision du fait peut-être de mon côté d'avoir été formé en tant que prof d'histoire-géographie, d'avoir cette vision-là, une vision sociétale qui intègre aussi des dimensions qui sont mon nouveau travail, mon nouveau métier d'accompagnement des personnes avec les questions d'émotion et l'alchimie émotionnelle. Voilà, parce que du coup, ça me donne une vision aussi très personnel, tu vois, de comment ça se passe au niveau individuel. Et de voir les individus, maintenant dans mon nouveau métier, se transformer et guérir de leurs blessures du passé.
Mais toi, comment est-ce que tu as fait, à titre personnel, cette transition ? Ça ne doit pas être évident de quitter un boulot de fonctionnaire dans lequel tu avais cette sécurité de l'emploi pour te lancer dans une activité sans filet ?
Bien, alors, il faut bien voir que depuis l'âge de 23 ans, pour des raisons personnelles, je me suis lancé dans tout ce qui était thérapie et j'avais pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais des grosses blessures personnelles, je me suis formé à tout ce qui était psychothérapie et thérapie depuis l'âge de 23 ans. Et pour une autre raison, j'avais des questionnements sur la spiritualité, tout ce qui relève de la transcendance ou entre guillemets de ce qui n'est pas expliqué par la science. Parce que à l'âge de 24 ans, j'ai vu quelqu'un mourir dans mon rêve. Et je me suis réveillé en pleurant. Et le matin, on m'a annoncé que la personne était morte. Or, c'était à 2000 kilomètres. Je n'avais pas vu la personne depuis 5 ans. Je savais qu'elle avait un cancer, personne dans mon entourage ne savait qu'elle était en phase terminale. Donc j'avais des preuves scientifiques, non reproductibles malheureusement par rapport à la science actuelle, mais ça m'a ouvert, si tu veux, au fait qu'il y a un autre univers, un monde sensible, un monde subtil, et auquel l'éducation nationale, par exemple, n'apportait pas de réponse. Donc ça m'a permis de rentrer dans une quête de connaissance et de compréhension du monde, de son fonctionnement, voilà. Et donc j'ai préparé, si tu veux, ma sortie depuis l'âge de 23 ans, en me formant, en réfléchissant. Simplement, la question, c'était quand ? Quand et comment et à quel moment ? Et avec quelle prise de risque ? Et c'est venu parce qu'à un moment donné, j'ai eu des soucis familiaux assez classiques de rupture, de séparation. Et je me suis arrêté, ce qu'on appelle un burn-out. Mais comme j'étais conscient de l'épuisement, bah, j'ai pris soin de moi. Je suis allé faire du jardinage au soleil. Et là, ce qu'on appelle sa sagesse intérieure ou sa voix intérieure m'a vraiment parlé. Il m'a dit « tu vas quitter l'éducation nationale ». Une espèce de voix qui s'impose. Je dis « tu vas quitter », mais c'est peut-être « je vais quitter ». Une sensation très nette que c'est ça que j'avais à faire. Et donc, dans l'année qui a suivi, bah, j'ai vraiment préparé le départ en me formant encore et en réfléchissant à comment j'allais faire et en regardant tout ce qui existait, les bouquins qui témoignaient des profs qui avaient quitté, en disant « bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque ou pas? Puis à un moment donné, c'est une sorte d'évidence. Il y a une grande angoisse, il y a une grande peur, mais c'est comme si c'était nécessaire pour sa propre survie. Rester dans un système qui nous paraît aliénant, c'est un tel conflit avec sa propre conscience que c'est plus possible. Donc le risque de vivre autre chose avec moins d'argent, en tombant au chômage, tu vois, en n'ayant plus rien, je dis mais non, mais c'est pas grave, il y a d'autres alternatives, je sais que je m'en sortirai, voilà, je préférais prendre le risque de perdre ce confort matériel qui est un peu le truc qui tient plein de gens dans la société, et d'aller explorer un autre monde fait peut-être de plus de liberté, de plus de danger que rester dans la matrice éducation nationale, qui est très intéressante au demeurant, mais je me sentais plus utile à l'idée de partir, et je sens qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus riche pour moi et beaucoup plus profond ce que je fais maintenant. Aujourd'hui, quand j'étais dans l'éducation nationale, j'étais ravi d'y être jusqu'à ce que je la quitte. Tu vois. Mais c'est comme quitter, c'est comme un prêtre qui se défroque, tu vois, ça se fait pas. On se rend aux États-Unis, on change plus facilement de métier. Mais quitter un poste d'agrégé, tu vois, où tu gagnes plein d'argent dans un monde qui est au chômage, ça va pas. Mais je voyais autour de moi plein de gens qui avaient fait des chemins parallèles, qui ont osé quitter leur métier, aller s'installer à la campagne, vivre d'autres vies. Et qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? C'était ça la question fondamentale. Est-ce qu'on vient vivre nos aspirations les plus profondes ou est-ce qu'on vient rester dans une matrice confortable et attendre que ça se passe et que des autorités décident que ça change peut-être un jour et que ça s'améliore? Bon, c'est un choix aujourd'hui qui paraît radical. Peut-être que demain, il paraîtra tout à fait normal et à plein de personnes.
Ça me fait penser à cette phrase très simple de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc toi, tu as choisi de le vivre, ce changement. Mais comment est-ce que ça a été interprété ou vu par les autres profs? Quel était le regard qu'ils avaient sur toi? Parce que finalement, tu as peut-être réalisé quelque chose que beaucoup de gens aimeraient pouvoir faire.
Oui, alors je suis pas forcément un modèle à suivre, parce que je pense que chacun a quelque chose de particulier à faire et que chacun a sa place et qu'il y a des personnes pour qui c'est très important qu'il soit dans l'éducation nationale aujourd'hui. Donc c'est pas une invitation à déserter l'éducation nationale. C'est une réflexion. Chacun doit mener sa réflexion par rapport à ça. Mais en gros, les réactions sont assez classiques. Soit il y a un soutien, un encouragement et par exemple, la proviseure avec laquelle je travaillais a été très soutenante. Elle a dit effectivement, au même âge, je ferai la même chose. Donc, c'était plutôt des soutiens. D'autres avaient envie de dire, ah, j'aimerais bien le faire, mais je sais pas, parce que c'était pas préparé chez eux. Ils sentaient que la peur était trop forte. Puis faire quoi? Puis l'enjeu n'est pas c'est vraiment une réflexion à mener. Moi, je te dis, ça faisait 20 ans que je réfléchissais à autre chose en parallèle. Et puis d'autres avaient envie parce qu'ils souffrent dans l'éducation nationale et leur envie c'est d'arrêter de souffrir et de passer à autre chose, mais de l'intérieur ils n'y arrivent plus, donc le confort a pris le pas sur l'énergie à pouvoir se transformer. Mais moi l'atout que j'avais c'est quand même tout ce travail thérapeutique qui permet de transformer les émotions au fur et à mesure, tu vois, de pas craindre d'avoir des émotions et de pas craindre les chaos de la vie et d'accepter de vivre des difficultés comme des apprentissages et que c'est ça la vie. Sortir de sa zone de confort pour explorer le monde, c'est ça qui me motivait. Avec cette idée que beaucoup de difficultés sont liées à des traumas inconscients et c'est ça qui est d'abord à guérir. C'est ce que moi j'ai passé beaucoup de temps à faire, donc je voyais bien le changement entre ce que j'étais à 20 ans et ce que je suis devenu à 40 ans. Et puis après, il y a des collègues, ou même des gens de ma famille, ça se fait pas, quoi. Voilà, on doit rester dans le système et chercher à l'améliorer de l'intérieur. Mais c'est un point de vue tout à fait respectable. Effectivement, pour certaines personnes, c'est le cas. C'est-à-dire que chacun doit sentir et explorer ce qui est juste pour lui à faire.
Et pour terminer, j'ai envie que tu me parles de cette notion de réussite. Qu'est-ce que c'est que pour toi réussir?
Oui, je pense que c'est qu'est-ce qu'une vie réussie? Tu vois, tu prends Nelson Mandela. Au mi-temps de sa vie, il est en prison, qu'est-ce qu'il a réussi? Tu le prends 20 ans plus tard, il a contribué à la fin de l'apartheid. Donc c'est compliqué comme question. Est-ce que c'est une réussite par rapport à ce que la société ou les autorités attendent? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se mesurer tout à la fin de sa vie quand on a tout accompli? Moi j'ai l'impression que la réussite c'est justement cette autosatisfaction de faire ce qu'on aime. Et qu'on sent qu'on est à sa place et qu'on est porté par cet élan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais qu'on sent que c'est juste et qu'on avance. et qu'on avance à la fois dans son chemin individuel et que ça a un impact collectif majeur. Voilà.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.